Et les matins se poursuivent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'intersyndicale organise son propre événement autour de la réforme des retraites après la menace de la CGT qui a l'intention de quitter la conférence de financement. Le dialogue ne s'arrange pas avec le gouvernement alors qu'a lieu aujourd'hui la 10e journée interprofessionnelle de mobilisation.
La question du logement est au cœur des élections municipales dans les zones tendues. Nous y reviendrons dans les municipales de l'Écho, un nouveau dossier de France Culture.
Tu serais prêt à tirer dans la foule? C'est la question qu'a posée Abdelhamid Abaoud, l'un des instigateurs des attentats du 13 novembre 2015 à Reda Ham. Ce dernier est jugé à partir d'aujourd'hui poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes.
Après les attaques perpétrées hier soir près de Francfort en Allemagne, la police semble privilégier la piste d'un crime raciste. 9 personnes sont mortes dans des fusillades.
Et nous retrouverons notre correspondant en Allemagne et en direct. Avant le procès en extradition de Julian Assange, notre correspondant au Royaume-Uni, cette fois a rencontré le père du fondateur de Wikileaks et le rédacteur en chef du site. Témoignage à suivre. Une réforme à pas feutrer, celle de la haute fonction publique. Stéphane Robert en reparlera dans son billet politique après ce journal. La conférence de financement a à peine commencé et déjà, elle est source de division. La CGT s'apprête à claquer la porte. Le syndicat a posé un ultimatum hier après avoir présenté ses propositions pour ramener le système des retraites à l'équilibre d'ici 2027. La balle est dans le camp du gouvernement, estime son secrétaire général Philippe Martinez. Une crispation de plus alors qu'a lieu aujourd'hui la 10e journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Les autres membres de l'intersyndicale restent pour l'instant à la table de ces discussions, ce qui ne les empêche pas d'organiser leur propre conférence. Anne-Laure Jumet, vous avez pu obtenir plus d'informations.
Une journée d'information, de débat autour des retraites, c'est ce que prépare la CGT, FO, la CFE-CGC ou encore Solidaire. Certains veulent l'appeler contre-conférence, d'autres y sont opposés. Quoi qu'il en soit, ce sera fin mars à Paris, au Conseil économique, social et environnemental, là où Édouard Philippe avait lancé les travaux de la conférence de financement le 30 janvier dernier. Le grand public sera convié à ces tables rondes réunissant des experts. Le panel est en cours de constitution, mais l'objectif c'est bien d'être très ouvert et de donner la parole à la rationalité, selon les mots de François Omeril, le président de la CFE-CGC. On veut démontrer qu'il peut y avoir d'autres cadres qu'un régime par points, explique pour sa part Yves Verrier de Force Ouvrière. Les syndicats opposés à la réforme sont en tout cas décidés à marquer les esprits avec des éléments chiffrés et des propositions alternatives. Alors que la conférence de financement, elle, n'aura pas encore fini ses travaux et qu'on ne sait pas ce que sera à ce moment-là la mobilisation sur le terrain. Gagner donc la bataille des idées, c'est l'un des prochains combats de l'intersyndicale.
Une autre bataille se joue en Outre-mer. En Martinique, les syndicats enseignants appellent à descendre aujourd'hui dans la rue. Sur l'île et dans le département voisin de la Guadeloupe, la profession se mobilise depuis plusieurs semaines. Parmi les raisons de la colère, la réforme des retraites toujours, mais aussi l'organisation du nouveau bac et les suppressions de postes à la rentrée prochaine, Aymeric Dantreuil.
73 postes supprimés en Martinique, 72 en Guadeloupe. C'est ce qu'avait annoncé le ministère de l'Éducation nationale fin décembre. Devant la mobilisation, Jean-Michel Blanquer a fini par annoncer le report des épreuves du bac, qui n'ont pu se tenir en janvier, et la suspension de la suppression des postes, en attendant le rapport des inspecteurs généraux envoyés sur place. Pour Serge Baclet, co-secrétaire départemental du syndicat FSU en Martinique, ses réponses ne sont pas suffisantes et il est hors de question de connaître de nouvelles suppressions de postes.
Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on supprime des postes en Martinique. Ça fait déjà depuis 10 ans plus de 1000 postes supprimés sur la Martinique. Nous disons qu'un pays qui a autant de difficultés sociales, de chômage et beaucoup de difficultés, c'est scandaleux, qu'il faut arrêter et il faut voir ce qu'on peut faire sur ce pays.
En Guadeloupe, l'intersyndicale a suspendu le mouvement dans l'attente du rapport des inspecteurs. Si la suppression des postes a finalement lieu, la mobilisation reprendra et avec le soutien des parents d'élèves. Michel Gédéon est le président de la Fédération des associations de parents d'élèves de Guadeloupe.
En tant que fédération de parents d'élèves, nous n'appelons pas à la grève, mais nous soutenons cette action parce que nous considérons qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de supprimer des postes en Guadeloupe. C'est le seul département archipel de France. Vous avez des îles comme la Désirade, vous pouvez effectivement avoir par classe une dizaine d'enfants. Mais nous avons d'autres classes en Guadeloupe où on peut se retrouver avec 28-30 élèves par classe. Il faut avoir une école ancrée dans la réalité guadeloupéenne.
Les inspecteurs de l'Éducation nationale doivent rendre leur rapport d'ici le milieu de la semaine prochaine.
Christophe Castaner regrette ces propos qui ont pu blesser Olivier Faure. Le ministre de l'Intérieur avait évoqué hier matin la vie privée du premier secrétaire du Parti Socialiste. Sur France Inter, il s'était dit, je cite, étonné des leçons de morale d'Olivier Faure que je connais bien et que j'ai accompagné dans ses divorces et ses séparations. Des mots qui ont choqué une partie de la classe politique, à gauche comme à droite. Une polémique sur fond d'affaire Benjamin Griveaux après la diffusion de vidéos à caractère sexuel. Ce dernier a renoncé à briguer la mairie de Paris. Paris qui, comme d'autres villes, tente de réguler la place prise par les plateformes de location type Airbnb. Le logement est au cœur des municipales de l'écho, votre nouveau rendez-vous chaque jeudi dans le journal de 8h jusqu'aux élections municipales. Une question occupe les communes, Catherine Pétillon, comment rendre le logement plus abordable ?
C'est bien sûr particulièrement vrai à Paris, la ville comptant le plus d'annonces sur Airbnb. La plateforme est avec d'autres, comme Abritel ou Booking, accusée d'amplifier la pénurie de logements disponibles. Quelle attitude adopter ? La question se pose désormais partout en France, mais les réponses dépendent des endroits. Dans les zones tendues, l'encadrement est au cœur des débats. Comme à Saint-Malo, la municipalité a déjà renforcé la réglementation. Insuffisant, juge un collectif d'habitants, J'y vis, j'y reste. Il continue d'interpeller les candidats sur les locations saisonnières intensives. D'autres communes sont plus attentistes, quand certains y voient même une opportunité. L'an dernier, l'association des maires ruraux a signé un partenariat avec Airbnb pour favoriser la promotion de ces destinations.
Mais en réalité, l'enjeu ne se résume pas à un débat sur la régulation des plateformes.
Airbnb n'est qu'un symptôme très visible, certes, d'une question plus large, celle d'une forme de concurrence entre habitants et visiteurs. L'attitude des collectivités locales dépend de la manière dont elles envisagent le développement de leur territoire et les conséquences positives et négatives des flux touristiques, souligne Thomas Aguilera. Il est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Rennes.
Il y a la question à quel territoire ça bénéficie, mais aussi à qui ça bénéficie. Sur un même territoire, ça peut bénéficier à de la restauration et des activités de consommation, mais par contre, ça peut très fortement aller à l'encontre des intérêts de résidents saisonniers qui ne peuvent plus se loger en fait dans ces appartements qui étaient auparavant disponibles, qui doivent aller dans un camping, et puis encore on va devoir vendre le foncier sur lequel était le camping, et donc les saisonniers ne peuvent plus se loger. Donc en fait, c'est pour qui on veut ces territoires, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que tout le monde se mette au service de touristes qui viennent quelques jours, consomment et repartent ? Là, c'est une question politique.
Ajoutons à cela l'arrivée de lignes grande vitesse, comme entre Paris et Bordeaux, et la multiplication des résidences secondaires. Elles représentent désormais 10% des logements en France, essentiellement à la mer et à la montagne. À Biarritz, près d'un logement sur deux est une résidence secondaire, et les habitants permanents peinent à se loger en centre-ville. Si certains acteurs et rapports de force sont nouveaux, la question, elle, est ancienne. C'est celle de l'équilibre entre d'un côté l'attractivité économique et de l'autre la solidarité et l'équité sociale. C'est à cela que doivent à nouveau aujourd'hui répondre les candidats aux municipales.
Catherine Pétillon. La justice s'intéresse aujourd'hui au cas Reda Ham. Cet homme de 35 ans, arrêté en août 2015 après un séjour en Syrie, est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes par la Cour d'assises spéciale de Paris. On le soupçonne surtout d'avoir été associé à la préparation d'attentats sur le sol français. Quand il était en Syrie, il était en contact avec un certain Abdelhamid Abaoud, considéré comme l'un des principaux instigateurs des attentats du 13 novembre dans la capitale, Florence Turm.
Il ne sera resté que quelques jours à Raqqa après avoir franchi la frontière turque le 4 juin 2015. Quelques jours consacrés à une formation au maniement des armes, montage et démontage d'une Kalachnikov, entraînement au tir de grenades assourdissantes, entraînement au cours duquel il sera d'ailleurs blessé au bras et à la jambe. L'incident va précipiter son retour en France. En réalité, le séjour en Syrie de Reda Ham serait sans doute passé inaperçu sans l'arrestation de son compagnon de voyage en Pologne. Les renseignements français sont prévenus et le placent sous surveillance avant de décider son interpellation en août 2015. Ancien informaticien dans une filiale de ADS où il était habilité secret défense, Reda Ham explique être parti après avoir perdu son emploi et rompu avec sa compagne, mais aussi pour tenter de retrouver un cousin. Au fil des interrogatoires, il finit par livrer des informations plus détaillées sur son passage à Raqqa. Il reconnaît surtout la voix de son recruteur au visage masqué comme étant celle d'Abdelhamid Abaoud. Abaoud qui lui demande s'il est prêt à commettre des attaques en en Europe. Imagine un concert de rock, lui dit-il. Serais-tu prêt à tirer dans la foule ? Reda Ham affirme avoir fait mine d'accepter pour mieux récupérer son passeport et partir. Mais son itinéraire de retour pose aussi question, le même que d'autres membres du commando par la suite. L'instruction n'a jamais, cela dit, identifié une cible potentielle ou des préparatifs précis d'une action à laquelle il aurait été susceptible de s'associer à son retour en France.
Et le procès doit se terminer mardi prochain. Dans le procès de François Fillon, qui commencera lui lundi, l'Assemblée nationale, partie civile, va demander plus d'un million d'euros de dommages et intérêts. L'ancien candidat à la présidentielle de 2017, comparé devant le tribunal correctionnel de Paris, avec son épouse Pénélope Fillon et son ancien suppléant à l'Assemblée pour détournement d'argent public dans le cadre des emplois présumés fictifs de son épouse.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. La ville de Hanau, près de Francfort en Allemagne, se réveille douloureusement après deux attaques à l'arme à feu hier soir.
La police déplore 9 morts et plusieurs blessés graves. Le corps sans vie de l'auteur présumé a été retrouvé chez lui. Et on apprend ce matin qu'il s'agit d'un crime d'extrême droite, Ludovic Piétenu.
Oui, absolument, un crime d'extrême droite sans aucun doute. L'auteur a laissé une lettre de confession et une vidéo. On parle bien donc d'un crime raciste perpétré par un Allemand. Selon le quotidien Bild, ses aveux ne laissent aucun doute sur ses motivations. Cet attentat d'extrême droite a visé deux bars à chicha fréquentés dans cette ville de 100 000 habitants par une population souvent d'origine kurde. Il est 22h hier soir, en plein centre-ville d'Hanau, quand cet homme lance un premier assaut. Il appuie sur la sonnette du bar, la porte est déverrouillée automatiquement, il entre, tire vers la zone fumeur, des témoins entendent 8 ou 9 tirs, il tue 4 hommes et une femme. Très peu de temps après, 2 km plus loin, de nouveaux tirs résonnent dans la nuit, quartier de Kesselstadt, la cible, un autre bar à chicha, l'Arena, situé au pied de tour d'habitation. La traque est alors lancée, d'importants moyens de police sont déployés jusqu'à 3h du matin, épilogue de cette double fusillade, de cette attentat. Le véhicule du suspect est retrouvé devant son domicile. Les forces spéciales font sauter la porte. Ils font face au père du suspect, lui demandent « Où est votre fils ?» Et la police découvre donc son corps sans vie, ses aveux et un autre cadavre à ses côtés, encore non identifié.
Et ces attaques s'inscrivent d'ailleurs dans un contexte particulier en Allemagne.
Oui, le pays fait face depuis plusieurs mois déjà à une recrudescence de ce que les médias allemands appellent la terreur, le terrorisme d'extrême droite. Rappelons que depuis le mois de juin l'an dernier, pour la première fois depuis des décennies, un homme politique, en l'occurrence de la CDU, le parti d'Angela Merkel, était tué par balle à bout portant par un militant néo-nazi. En octobre, la synagogue de Halle et des restaurants de kebab dans la ville étaient visés par un néo-nazi qui a tout filmé, tout peut-être comme ce que vient de faire l'auteur de cet attentat cette nuit à Hanau. Il faut attendre, bien sûr, de connaître le contenu exact de cette vidéo. Rappelons enfin, vendredi dernier, 12 suspects néo-nazis arrêtés dans un coup de filet dans plusieurs régions du pays. Ils préparaient un attentat d'envergure dans les tout prochains jours.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. Julian Assange sera-t-il extradé vers les États-Unis ? Son procès pour le déterminer doit commencer lundi au Royaume-Uni et il s'annonce particulièrement tendu. Le clan Wikileaks se mobilise pour dénoncer le risque pour la liberté de la presse. Le rédacteur en chef du site et le père de Julian Assange seront aujourd'hui à Paris, épaulés par l'organisation Reporters sans frontières. Antoine Gignot les a rencontrés avant leur départ.
À chaque visite, il passe par 3 sas de sécurité, une fouille et un arrêt devant les chiens de la prison de Penmarch. Et puis, à 75 ans, il s'assoit dans le parloir au milieu d'une foule de détenus. John Shipton vient voir son fils, mais Julian Assange, dit-il, n'est plus le même homme.
Julian souffre des conséquences de 10 ans de torture psychologique. C'était un homme d'une nature très douce et il ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Cette souffrance a des effets délétères sur sa santé psychologique et physique.
Et il y a urgence. Les 117 médecins de 18 pays différents qui signent ces derniers jours une lettre conjointe dans la revue médicale britannique The Lancet évoquent clairement un danger de mort.
Washington adorerait que Julian succombe à ses persécutions pour que ce soit une leçon pour tous les autres journalistes et les autres éditeurs, les autres médias. C'est un problème global de l'Occident. Il faut qu'on puisse parler librement des problèmes qui nous concernent. Autrement dit, la liberté d'expression. Mais je pense qu'on va réussir collectivement.
Et lorsqu'on évoque la longueur du procès qui va durer au moins jusqu'au mois de juin, peut-être plusieurs années, John Shipton n'a aucun doute, il sera là jusqu'au bout. Plus ils font pression sur Julian, plus j'ai de la force, dit-il, comme n'importe quel père ou n'importe quelle mère.
Hier, dans une audience préparatoire, les avocats ont affirmé qu'un ancien élu républicain qui agissait sur ordre du président américain Donald Trump avait promis à Julian Assange une grâce présidentielle à condition qu'il revienne sur des informations publiées à l'époque et qu'il affirme publiquement que la Russie n'était pas impliquée dans le piratage de courriels électroniques du Parti démocrate. Le temps en France, le soleil sera généreux tout au long de la journée sur une bonne moitié sud du pays. Plus au nord, le ciel sera chargé avec parfois de la pluie par endroit. Il fait ce matin 7 degrés seulement à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Paris et 13 degrés à Nice, Guillaume.